Chapitre 21, où l'on verra quelle charmante surprise la nature fait un beau soir aux habitants de Gallia. C'était en effet une merveilleuse habitation, toute chauffée, toute éclairée, que cette caverne où le petit monde de Gallia trouva aisément place. Et non seulement Hector Servadac et « ses sujets », comme disait volontiers Ben Zouf, pourraient s'y loger confortablement, mais les deux chevaux du capitaine et un nombre assez considérable d'animaux domestiques auraient là un abri contre le froid jusqu'à la fin de l'hiver gallien, si cet hiver devait jamais avoir un terme. Cette énorme excavation, cela fut aussitôt reconnu, n'était à vrai dire que l'épanouissement formé par une vingtaine de boyaux qui, après s'être ramifiés à l'intérieur du massif, venaient y aboutir. L'air chaud s'y propageait à une température remarquablement élevée. On eût dit vraiment que la chaleur transsudait à travers les pores minéraux du mont. Donc, sous ces épaisses voûtes, à l'abri de toutes les intempéries d'un climat polaire, bravant les froids de l'espace, si bas qu'ils puissent descendre, tous les êtres animés du nouvel astre devaient trouver un refuge assuré, tant que le volcan se maintiendrait en activité. Mais, ainsi que le fit justement observer le comte Timachef, aucun autre mont ignivome n'avait été signalé pendant le voyage de la Dobryna sur le périmètre de la nouvelle mer. Et si cette unique bouche servait d'exutoire aux feux intérieurs de Gallia, l'éruption pouvait évidemment durer pendant des siècles. Il s'agissait donc de ne perdre ni un jour, ni même une heure. Pendant que la Dobryna pouvait naviguer encore, il fallait retourner à l'île Gourbi, en déménager lestement, transporter sans retard à leur nouveau domicile hommes et animaux, y emmagasiner céréales et fourrages et s'installer définitivement sur la terre chaude, nom très justifié qui fut donné à cette portion volcanique du promontoire. La chaloupe revint le jour même à l'île Gourbi et dès le lendemain, les travaux furent commencés. C'était d'un grand hivernage qu'il s'agissait alors et à toutes les éventualités duquel il fallait parer. Oui, grand, long, interminable peut-être, bien autrement menaçant que ces 6 mois de nuit et d'hiver que bravent les navigateurs des mers arctiques. Qui pouvait prévoir, en effet, le moment auquel Gallia serait délivrée de ses liens de glace? Qui pouvait dire si elle suivait dans son mouvement de translation une courbe rentrante et si un orbe elliptique la ramènerait jamais vers le soleil? Le capitaine Servadac apprit à ses compagnons l'heureuse découverte qu'il venait de faire. Le nom de Terre chaude fut accueilli par les bravos de Nina et des Espagnols surtout. La Providence, qui faisait si bien les choses, fut remerciée comme elle méritait de l'être. Pendant les 3 jours qui suivirent, la Dobryna fit 3 voyages. Chargée jusqu'à la hauteur des bastingages, elle transporta d'abord la récolte des fourrages et des céréales, qui fut déposée dans les profonds réduits destinés à servir de magasin. Le 15 mars, les étables rocheuses reçurent ceux des animaux domestiques, taureaux, vaches, moutons et porcs, une 50aine environ, dont on voulait conserver l'espèce. Les autres, que le froid allait bientôt détruire, devaient être abattus en aussi grande quantité que possible, la conservation indéfinie des viandes étant facile sous ces climats rigoureux. Les Galliens auraient donc là une énorme réserve. Avenir rassurant, au moins pour la population actuelle de Gallia. Quant à la question des boissons, elle était extrêmement facile à résoudre. Il faudrait évidemment se contenter d'eau douce, mais cette eau ne manquerait jamais, ni pendant l'été, grâce aux ruisseaux et aux citernes de l'île Gourbi, ni pendant l'hiver, puisque le froid se chargeait de la produire par la congélation de l'eau de mer. Tandis que l'on travaillait ainsi à l'île, le capitaine Servadac, le comte Timachev et le lieutenant Prokop s'occupaient d'aménager cette demeure de la terre chaude. Il fallait se hâter, car déjà la glace résistait, même en plein midi, aux rayons perpendiculaires du soleil. Or, il convenait, pour les transports, d'utiliser la mer tandis qu'elle était encore libre, plutôt que de traverser péniblement sur sa surface solidifiée. Cet aménagement des diverses excavations, ouvertes dans le massif du volcan, fut conduit avec une grande ingéniosité. De nouvelles explorations avaient amené la découverte de nouvelles galeries. Ce mont ressemblait à une vaste ruche dans laquelle abondaient les alvéoles. Les abeilles, on veut dire les colons, trouveraient aisément à s'y loger et dans de très suffisantes conditions de confort. Cette disposition fit même donner à cette demeure, et en l'honneur de la fillette, le nom de Nina Ruche. Tout d'abord, le premier soin du capitaine Servadac et de ses compagnons fut d'employer au mieux des nécessités quotidiennes cette chaleur volcanique que la nature leur prodiguait gratuitement. En ouvrant au filet de laves incandescentes des pentes nouvelles, ils les déversèrent jusqu'aux endroits où ils devaient être utilisés. Ainsi, la cuisine de la Dobryna, ayant été installée dans un réduit convenablement approprié à cet usage, fut désormais chauffée à la lave. Et Moschel, le maître-coq de la goélette, eut bientôt la main faite à ce nouveau genre de foyer de chaleur. « Hein, disait Ben Zouf, quel progrès si, dans l'ancien monde, chaque maison avait pour calorifère un petit volcan qui ne coûterait pas un centime d'entretien !» La grande caverne, cette excavation principale vers laquelle rayonnaient les galeries du massif, fut destinée à devenir la salle commune, et on la meubla avec les principaux meubles du Gourbi et de la Dobryna. Les voiles de la goélette avaient été déverguées et emportées à Nina Ruche, où elles pouvaient être employées à divers usages. La bibliothèque du bord, bien fournie de livres français et russes, trouva naturellement sa place dans la grande salle. Tables, lampes, chaises en complétaient l'ameublement et les parois furent ornées des cartes de la Dobryna. On a dit que le rideau de feu qui marquait la baie antérieure de la principale excavation, la chauffait et l'éclairait à la fois. Cette cataracte de lave se précipitait dans un petit bassin encadré d'une bordure de récif et qui ne semblait avoir aucune communication avec la mer. C'était évidemment l'ouverture d'un précipice très profond, dont les eaux seraient sans doute maintenues à l'état liquide par les matières éruptives, lors même que le froid aurait glacé toute la mer galienne. Une seconde excavation, située au fond, à gauche de la salle commune, devint la chambre spéciale du capitaine Servadac et du comte Timachev. Le lieutenant Prokop et Ben Zouf occupaient ensemble une sorte de retrait évidé dans la roche qui s'ouvrait à droite, et on trouva même un réduit en arrière dont on fit une véritable chambrette pour la petite Nina. Quant aux matelots russes et aux espagnols, ils établirent leurs couches dans les galeries qui aboutissaient à la grande salle et que la chaleur de la cheminée centrale rendait parfaitement habitable. Le tout constituait Nina Ruche. La petite colonie, ainsi casée, pouvait donc attendre sans crainte le long et rude hiver qui allait la séquestrer dans le massif de la terre chaude. Elle y devait impunément supporter une température qui, au cas où Galia se verrait entraînée jusqu'à l'orbite de Jupiter, ne serait plus que la 25e partie de la température terrestre. Mais pendant les préparatifs de déménagement, et au milieu de cette activité fébrile qui dévora même les Espagnols, que devenait Isaac Acabut, demeuré au mouillage de l'île Gourbi? Isaac Acabut, toujours incrédule, sourd à toutes les preuves que, par humanité, on avait accumulées pour vaincre sa méfiance, était resté à bord de sa tartane, veillant sur sa marchandise comme un avare sur son trésor, grommelant, gémissant, regardant à l'horizon, mais en vain, si quelque navire ne se présentait pas en vue de l'île Gourbie. On était d'ailleurs débarrassé de lui à Nina Ruche et on ne s'en plaignait pas. Isaac avait formellement déclaré qu'il ne livrerait sa marchandise que contre argent ayant cours. Aussi, le capitaine Servadac avait-il défendu, en même temps qu'on lui prit quoi que ce soit, qu'on lui acheta quoi que ce fût. On verrait bien si cet entêté céderait devant la nécessité qui le presserait bientôt et devant la réalité dont il serait convaincu avant peu. Il était bien évident, du reste, qu'Isaac Hakkabut n'admettait en aucune façon la situation redoutable, acceptée par les autres, faite à la petite colonie. Il se croyait toujours sur le sphéroïde terrestre, dont un cataclysme avait modifié quelques portions seulement, et il comptait que, tôt ou tard, les moyens lui seraient donnés de quitter l'île Gourbie pour aller reprendre son commerce sur le littoral méditerranéen. Avec sa défiance de tout et de tous, il s'imaginait que quelque trame avait été ourdie contre lui pour le dépouiller de son bien. Aussi, ne voulant pas être joué, il repoussait l'hypothèse de cet énorme bloc détaché de la terre et emporté dans l'espace. Et ne voulant pas être dépouillé, il veillait nuit et jour. Mais en somme, puisque jusqu'ici tout concluait à l'existence d'un nouvel astre pérégrinant dans le monde solaire, astre habité seulement par les Anglais de Gibraltar et les colons de l'île Gourbie, Isaac Hakkabut avait beau promener sur la ligne d'horizon sa vieille lunette rapiécée comme un tuyau de poêle, il ne voyait aucun navire apparaître, ni aucun trafiquant à courir pour échanger son or contre les richesses de la Hansa. Cependant, Isaac n'avait pas été sans connaître les projets d'hivernage qui allaient être mis à exécution. Tout d'abord, suivant son invariable habitude, il refusa d'y croire. Mais lorsqu'il vit la Dobryna faire de fréquents voyages au sud, emportant les récoltes et les animaux domestiques, il fut bien obligé d'admettre que le capitaine Servadac et ses compagnons se préparaient à quitter l'île Gourbie. Qu'allait-il donc devenir, ce malheureux Hakkabut, si en fin de compte, tout ce qu'il refusait de croire était vrai? Comment, il ne serait plus sur la Méditerranée, mais sur la mer Gallienne? Il ne reverrait plus jamais sa bonne patrie allemande. Il ne trafiquerait plus avec ses faciles dupes de Tripoli et de Tunis, mais c'était sa ruine. Alors, on le vit quitter plus souvent sa tartane et se mêler aux divers groupes de Russes et d'Espagnols qui ne lui ménageaient pas ses quolibets. Il essaya encore d'amadouer Benzouf en lui offrant quelques prises de tabac que l'ordonnance refusait par ordre. « Non, vieux Zabulon, lui disait-il, pas une seule prise, c'est la consigne. Tu mangeras ta cargaison, tu la boiras, tu la priseras tout entière et tout seul, sardanapale. » Isaac Hakkabut, voyant enfin qu'il ne pouvait rien obtenir des saints, se rapprocha du dieu, et un jour il se décida à demander lui-même au capitaine Servadac si tout cela était bien vrai, estimant qu'un officier français ne voudrait pas tromper un pauvre homme comme lui. « Eh oui, mordieu, oui, tout cela est vrai, » répondit Hector Servadac, impatienté de tant d'obstination. Et vous n'avez que le temps de vous réfugier à Nina Ruche. Que l'Éternel et Mahomet me soient en aide, murmura Isaac, faisant cette double invocation en véritable renégat qu'il était. Voulez-vous 3 ou 4 hommes pour conduire la Hansa au nouveau mouillage de la terre chaude? Lui demanda le capitaine Servadac. Je voudrais aller à Alger, répondit Isaac Hakkabut. Je vous répète qu'Alger n'existe plus. Par Allah, est-ce possible? Pour la dernière fois, voulez-vous nous suivre avec votre tartane à la terre chaude, où nous allons hiverner? Miséricorde, c'en est fait de mon bien. Vous ne le voulez pas? Eh bien, nous conduirons la Hansa, malgré vous et sans vous, en lieu sûr. Malgré moi, monsieur le gouverneur? Oui, car je ne veux pas que par votre stupide entêtement, toute cette précieuse cargaison soit anéantie sans profit pour personne. Mais c'est ma ruine. Ce serait bien plus assurément votre ruine si nous vous laissions faire, répondit Hector Servadac en haussant les épaules. Et maintenant, allez au diable. Isaac Hakkabut retourna vers sa tartane, levant les bras au ciel et protestant contre l'incroyable rapacité des hommes de mauvaise race. Le 20 mars, les travaux de l'île Gourbi étaient terminés. Il ne restait plus qu'à partir. Le thermomètre était descendu en moyenne à 8 degrés au-dessous de zéro. L'eau de la citerne n'offrait plus une seule molécule liquide. Il fut donc convenu que, le lendemain, tous s'embarqueraient sur la Dobryna et quitteraient l'île pour se réfugier à Ninarush. On convint également d'y conduire la tartane, malgré toutes les protestations de son propriétaire. Le lieutenant Procope avait déclaré que, si la Hansa restait mouillée au port de Chélif, elle ne saurait résister à la pression des glaces et serait immanquablement brisée. À la crique de la terre chaude, mieux protégée, elle serait plus en sûreté, et, en tout cas, s'y trouva-t-elle en perdition, sa cargaison, du moins, pourrait être sauvée. C'est pourquoi, quelques instants après que la goélette eut levé l'ancre, la Hansa appareilla aussi, malgré les cris et objurations d'Isaac Hakkabut. Quatre matelots russes s'y étaient embarqués par ordre du lieutenant, et sa grande antenne déployée, le bateau boutique, comme disait Ben Zouf, quitta l'île Gourbi et se dirigea vers le sud. Ce que furent les invectives du renégat pendant la traversée, et avec quelle insistance il répéta qu'on agissait malgré lui, qu'il n'avait besoin de personne, qu'il n'avait réclamé aucune aide, cela ne peut se dire. Il pleurait, il se lamentait, il geignait, au moins des lèvres. Car il ne pouvait empêcher ses petits yeux gris de lancer certains éclairs à travers ses fausses larmes. Puis, 3 heures après, lorsqu'il fut bien amarré dans la crique de la terre chaude, quand il vit en sûreté son bien et lui, quelqu'un qui se fût rapproché aurait été frappé de la satisfaction non équivoque de son regard, et en prêtant l'oreille, il l'eût entendu murmurer ces paroles. « Pour rien cette fois, les imbéciles, les idiots, ils m'ont conduit pour rien. » Tout l'homme était dans ces mots. Pour rien, on lui avait rendu service, pour rien. L'île Gourbi était maintenant et définitivement abandonnée des hommes. Il ne restait plus rien sur ce dernier lambeau d'une colonie française, à part les animaux de poils et de plumes qui avaient échappé aux traqueurs, et que le froid allait bientôt anéantir. Les oiseaux, après avoir essayé de trouver au loin quelque continent plus propice, étaient revenus à l'île, preuve incontestable qu'il n'existait ailleurs aucune terre qui pût les nourrir. Ce jour-là, le capitaine Servadac et ses compagnons prirent solennellement possession de leur nouveau domicile. L'aménagement intérieur de Ninarush plut à tous, et chacun se félicita d'être si confortablement et surtout si chaudement logé. Seul Isaac Hakkabut ne partagea pas la satisfaction commune. Il ne voulut même pas pénétrer dans les galeries du massif et resta à bord de sa tartane. « Il craint sans doute, dit Ben Zouf, qu'on ne lui fasse payer son loyer. Mais bah, avant peu, il sera forcé dans son gîte, ce vieux renard. » Et le froid le chassera hors de son trou. Le soir, on pendit la crémaillère, et un bon repas, dont les mets furent cuits au feu volcanique, rassembla tout ce petit monde dans la grande salle. Plusieurs toasts, dont la cave de la Dobryna fournit les éléments en vin de France, furent portés au gouverneur général et à son conseil d'administration. Ben Zouf, naturellement, en prit pour lui une bonne part. Ce fut très gai. Les Espagnols se signalèrent par leur entrain. L'un prit sa guitare, l'autre ses castagnettes, et tous de chanter en chœur. À son tour, Benzou fit entendre le célèbre refrain du zouave, si connu dans l'armée française, mais dont le charme ne peut être apprécié que de ceux qui l'ont entendu exécuter par un virtuose tel que l'ordonnance du capitaine Servadac. Misty gold, dar dar tire lire, flic floc flac lirette lira, far la lira, tour la la rire, tour la pribo, rocando, sans repos, répit, répit, ripo, ripo, ripette, si vous attrapez mon entrain, fameux vous êtes. Puis un bal fut improvisé, le premier sans doute qui eût été donné sur Gallia. Les matelots russes essayèrent quelques danses de leur pays, que le public goûta fort, même après les merveilleux fandangos des Espagnols. Un pas, très connu à l'Élysée-Montmartre, fut même exécuté par Benzouf avec autant d'élégance que de vigueur, et valut à l'aimable chorégraphe les sincères compliments de Negrete. Il était 9 heures lorsque se termina cette fête d'inauguration. On sentit alors le besoin de prendre l'air, car les danses et la température aidant, il faisait vraiment chaud dans la grande salle. Benzouf, précédant ses amis, s'engagea dans la galerie principale qui aboutissait au littoral de la Terre chaude. Le capitaine Servadac, le comte Timachev et le lieutenant Procope les suivaient d'un pas plus modéré, lorsque des cris qui retentirent au dehors les firent hâter leur marche. Cependant, ce n'était point des exclamations provoquées par la terreur, mais bien des bravos, des hurrahs, qui éclataient comme une mousquetade dans cette atmosphère sèche et pure. Le capitaine Servadac et ses deux compagnons, arrivés à l'orifice de la galerie, aperçurent tout leur monde groupé sur les roches. Benzouf, la main dirigée vers le ciel, était dans l'attitude de l'extase. « Ah, monsieur le gouverneur général! Ah, monseigneur !» s'écria l'ordonnance, avec un accent de joie qu'on ne saurait rendre. « Eh bien, qu'y a-t-il ? » demanda le capitaine Servadac. « La lune !» répondit Benzouf. En effet, la lune sortait des brumes de la nuit et apparaissait pour la première fois sur l'horizon de Gallia.